Bonsoir Yuri Bonaventura.
Bonsoir Benoît.
Ah, très bien, très très bien. C'est un grand plaisir, un immense bonheur de vous accueillir. La France vous aime, vous adore depuis des années, depuis au moins 1996, la sortie de Ne me quitte pas. Et vous sortez un nouvel album qui s'appelle Amamé, ça veut dire aimez-moi, c'est ça?
Oui.
Oui. Vous doutez encore qu'on puisse... Non, vous doutez qu'on puisse vous aimer ou pas?
Aimez-moi, oui, aimez-moi, j'ai doute. Et oui, je croyais que j'ai les cheveux un peu blancs et je croyais que la vie m'avait oublié. Que, vous savez, quand on aime quelqu'un et quand on ne l'aime plus ou qu'on est aimé et on n'est plus aimé ou qu'on ne trouve pas l'amour vrai, le grand amour, ou quand ça arrive, on se sent comme abandonné. Et il y a des gens qui parcourent la vie sans connaître l'amour.
Ouais.
Et c'est très dur. Et l'album est dédié à tous ces gens qui aiment et qui ne sont pas correspondus. Ou, voilà, je n'ai jamais écrit des albums comme ça, mais c'était un sujet important pour moi à la fin de l'année 2023. Et l'album, je l'ai écrit comme ça, oui.
C'est l'album le plus romantique.
Et moi, j'ai trouvé ça un peu idiot.
Parce le côté que, romantique, c'est,
ouais,
c'est
ouais,
un peu...
Oui, j'ai trouvé toujours ça un peu parce que ma musique a toujours été contestataire,
ouais.
Un peu jazzy, mais salsa agressive, salsa dura. Et là, je suis parti à New York enregistrer. Mais je me suis retrouvé avec des lignes mélodiques très lyriques dans les compositions.
D'accord.
Parce que la salsa est composée de ces trois éléments. La salsa est composée d'un mysticisme amérindien. Et les maracas, c'est un instrument très, très, très religieux et pour des expériences de chamanisme.
Oui.
Les maracas est un instrument profondément mystique. Et après, il y a le lyrisme européen qui est arrivé avec les clavecins, les pianos, les contrebasses, les violons, ces instruments, les cuivres qui sont arrivés en Amérique au XVIe siècle. Donc, ces rencontres de ce lyrisme européen avec l'amérindien et après l'arrivée des Noirs africains en raison de l'esclavage qui ont été amenés et nous a donné une richesse, une diversité dans la musique. Mais on peut tourner la salsa, on peut la tourner vers le lyrisme européen, vers l'Afrique ou vers ce mysticisme. Donc la salsa est riche en ça. Chose que pour le jazz des États-Unis a été très dur quand j'ai senti ça. Comment les anglo-saxons ont enlevé les tambours des mains, les tambours qui se jouent avec les mains,
ah oui,
aux Africains des États-Unis,
aux
Noirs des États-Unis. C'est-à-dire que les Latins, les Français, les Espagnols, les Portugais ont consenti l'utilisation de l'instrument. Les Portugais au Brésil, les Espagnols en Amérique latine, à Cuba, et les Français en Haïti, dans toute la Caraïbe, il y a le tambour des mains. Mais à partir de que tu arrives dans le monde anglo-saxon, il n'y a plus de tambour de main. Mais c'est les mêmes Africains. C'est une vision très militaire, très stratégique des Anglais, parce qu'ils ont compris qu'à travers de ces instruments, l'homme noir s'est communiqué. C'est une histoire très dure. Mais l'histoire de la salle, c'est dur. Mais on croit aux clichés des publicités, on croit que la salsa, c'est quelque chose de très tropical et festif, et comme ça. La salsa s'est rencontrée à New York, dans une grande difficulté d'exclusion, d'émigration, de pauvreté, mais il s'est croisé avec les Noirs du jazz à Harlem,
oui,
à New York. Et cette sonorité, la salsa est devenue urbaine et agressive et forte en raison de ça. Oui, c'est pour ça que je suis allé enregistrer à New York.
Enregistré à New York, mais masterisé ensuite...
Argentine.
En Argentine.
Oui, oui.
En Argentine.
Oui, en Argentine. Il y a de très bons ingénieurs latinos, très bons en Argentine.
Oui. Parce qu'on pense parfois que la salsa, ça vient d'Amérique du Sud. Non, c'est né à New York. Hein.
Oui, réellement, les rythmes, toutes les cellules rythmatiques viennent de Cuba, de Panama, de Porto Rico, de Colombie, de Venezuela. Dans notre musique, on peut jouer aussi des bosses à l'intérieur. Ça s'appelle sauce. Mais ce qui a changé vraiment Benoît, sujet ici, c'est comment... Quand ces émigrés arrivent aux États-Unis, comment les ingénieurs ont participé à cette prise de son et à cette caractérisation de la musique spécifique à l'humanité urbaine, le béton, New York, la rencontre avec les Noirs et qu'est-ce qui s'est passé. C'est, les ingénieurs sont, c'est, on le dit presque jamais, mais la prise des ondes est très importante. Hein. Mais les musiciens, cette agressivité urbaine, plus John Fausti et les grands ingénieurs du son qui ont fait de ces musiques, lui ont donné un costume urbain. Hein. Sinon, c'est tropicaliste. Parce qu'un homme qui habite à La Havane, dans les tropiques, tranquille,
ouais.
C'est une chose. Un homme qui habite à Caracas, ou un homme qui habite à Cartagena, en Colombie, ou à Panama, ou à San Juan de Porto Rico, c'est une chose. Mais la condition humaine à New York, c'est une autre.
Bien sûr.
Et c'est son change.
Vous avez raison, on a parfois l'impression que cette musique est festive, faite pour danser et tout. Mais quand on plonge dans le texte, si on comprend, si on traduit, c'est grave, c'est triste parfois.
Oui.
Et c'est ce qui fait aussi la force de cette musique.
Exactement.
C'est comme le blues, quoi. On y dit quelque chose de tellement profond, mais c'est en dansant, quoi.
Oui, exactement. Exorciser les peines avec la musique, c'est africain, ça. C'est l'Afrique qui nous a appris ça.
Ça veut dire que quand vous rentrez dans un studio à New York, vous avez l'œil et l'oreille sur tout, sur toutes les prises de son, sur ce qui se passe dans le studio, l'ingé son. Sur cet album, vous maîtrisez un peu tout, la production, tout.
Oui, exactement.
Voilà, c'était important.
J'ai eu la chance. J'ai engagé un musicien qui s'appelle Jair Salas pour faire la production exécutive à New York, qui habite là-bas. On a trouvé un studio, mais j'étais en retard avec les arrangements et la fin des textes. Et je me suis décalé 3-4 jours et le studio m'a annulé. Il m'a dit, si vous ne venez pas dans les délais, vous n'avez plus de studio. Alors, on n'avait pas de studio, on est parti à notre studio. Et il se trouve qu'en parlant avec les ingénieurs, ils m'ont dit, nous étions les ingénieurs de Tony Bennett.
Oh.
Et en fait, Tony Bennett venait de mourir.
Ouais.
Et les ingénieurs ont été là, ils ont monté un studio à eau. Et je suis allé enregistrer là-bas et à un moment donné, il m'a sorti un micro, un Telefunken comme ça, immense, un immense micro. Je ne sais pas quelle marque c'était ce microphone, mais c'était un immense micro comme ça, avec des tubes. Il m'a dit que c'était le microphone de M. Tony Bennett.
Et vous avez chanté avec?
Oui, j'ai chanté. Ah ouais, j'ai pas chanté comme Tony Bennett.
mais sur le disque, il y a ce micro?
Oui, oui, c'est ce micro. Et la prise de la voix, c'est avec ce micro. Et j'adore les titres un peu lyriques, piano-voix dans l'album, justement pour ça.
Vous vivez entre la France, la Colombie. Comment ça se passe? Vous avez vécu en France, vous êtes retourné en Colombie. Vous maîtrisez très bien la langue.
Merci.
C'est notre culture. Mais vous avez eu envie de repartir, vous avez d'autres activités là-bas, vous avez une fondation.
Oui, exactement.
Vous occupez d'enfants, c'est ça?
Oui, et en fait, je suis venu en France en 88 et je suis venu faire des études de sciences éco. Mais je faisais la musique dans les métros, je faisais la manche dans les métros à Paris parce que je n'avais pas un permis de travail, je ne pouvais pas demander un travail en France. Mais pour m'aider, je jouais la musique dans les métros. Et au fur et à mesure, la musique a pris une place très importante en raison de ce que je voulais dire, de ce que je voulais exprimer. Et je suis parti vers la musique. Ça n'a pas marché. Je suis rentré en Colombie et j'ai laissé une cassette à un journaliste de Radio Nova qui s'appelait Rémi Colpacopoul.
Ouais.
Voilà. Mais c'est Rémi Colpacopoul. Et malheureusement, il est décédé. Mais lui, il a mis à l'antenne vers 1h du matin. Il a mis une cassette, une petite cassette, et un taxi écoutait la radio. Et un homme d'une maison de disques, un grand ami qui est devenu un grand ami, Jason Ron, mon éditeur, il est monté dans les taxis. Et il a écouté, il a dit, c'est quoi ça? Il a dit, c'est Radio Nova. Et il a appelé le lendemain à la radio et on lui a donné mon numéro. Et l'histoire a démarré comme ça. Alors je suis revenu en France, et c'était en 95. Pour commencer des tournées. Et on a commencé à faire des tournées dans le monde. On est allé dans les pays de l'Est, en Afrique, dans la Caraïbe, dans la Polynésie, en Asie, et tout ça, en Amérique, au Canada. Bon, enfin, et c'était drôle, et tout ça. Après, vers 2005-2007, j'avais appris beaucoup des droits d'auteur. Beaucoup des droits d'auteur, des valeurs républicaines, des valeurs de la République française. Et j'ai voulu partager cette connaissance, c'est ce que j'ai senti et appris, et l'amour et ce que j'ai reçu de la France. Et je suis allé en Colombie, j'ai monté une fondation, qui s'appelle Fondation Yuri Buenaventura, c'est une petite fondation, Mais j'ai travaillé avec la compagnie de pétrole de Colombie, compagnie nationale de pétrole, et avec la Banque de Colombie. Je leur ai dit, j'ai un projet social. Je voudrais produire des musiciens dans tout le pays. Et on a produit 120 artistes, 120 albums. Chaque album de 6 chansons, on a produit 700 titres. Et c'est un bon catalogue musical de toute la Colombie. On leur a produit un vidéoclip. Et on leur a donné, c'est là qui est le plus important, formation juridique en droit d'auteur.
D'accord.
Et on a fait venir des hommes techniques, des hommes qui connaissent les droits d'auteur de la SACEM, en partenariat avec la Société d'auteurs et compositeurs et éditeurs de musique de France. Et ils sont venus en Colombie nous donner ces ateliers et ils ont formé les musiciens en droit d'auteur, les droits d'auteur français, bien évidemment.
Et vous composez aussi la musique pour les séries télé? Enfin, vous faites
ah oui,
de choses.
Ça, c'est bien. Oui, j'ai fait 300 tracks, ouais. 300 tracks pour une série de télé en Colombie qui s'appelle Pablo Escobar.
Oui, qu'on a vu, Patron del Mar. Qui était diffusé sur Netflix.
Oui, c'est toujours sur Netflix. J'ai fait tous ces titres. Voilà. Oui.
Donc, vous êtes aussi très actif en Colombie.
Oui, mais l'année prochaine, je veux venir en France. Depuis fin janvier, on a une grande tournée et on a des beaux projets en France. J'ai signé avec une maison de production qui s'appelle Gérard Drouot Productions.
Oui, une grande maison.
Et une maison de disques tout neuf qui s'appelle Vivian Music Label. On a signé l'album et mon back catalogue aussi. Et nous allons travailler et venir en France au plus, amener une musique que je trouve importante. C'est un outil important contre la morosité, contre la désespérance. C'est une musique qui donne de l'énergie et je veux partager ça à la France plus.
Et quand vous êtes venu en France pour faire les études, vous n'osiez pas imaginer une carrière d'artiste? On a parfois l'impression que vous dites, ben voilà, j'ai eu cette chance, ça m'est tombé dessus un peu, mais c'est peut-être pas ce que je voulais faire au début. Ouais, c'était pas ça?
Non, c'était pas ça. Toujours pas. Hein. J'aime ce que j'ai fait. J'aime la musique. Et j'aime les tambours, j'aime la salsa. J'ai eu des amis qui sont morts âgés, en faisant la musique à Aznavour, Ibrahim Ferrer, de Buena Vista Social Club est mort à 92 ans. Et j'ai un autre ami qui est mort à 94 ans en chantant. Donc moi, j'ai envie de continuer à chanter. J'aime chanter et j'aime l'humain. J'aime l'humain.
On l'entend. On l'entend. Alors, un dernier mot sur vous, s'il vous plaît. On vous en parle tout le temps, évidemment, sur le choix que vous avez fait dans les années 90 quand vous avez repris Ne me quitte pas. Parce que quand on pense à vous, on ne peut pas ne pas penser à cette chanson. C'est le patrimoine de la chanson française. Oui. Personne n'ose y toucher. Oui. Et vous vous êtes dit, tiens, je vais en faire une version un peu différente. Oui. Et ça a cartonné. C'est monumental.
Oui, c'était un peu spécial parce que j'ai joué dans un bar, mais les gens ne comprenaient pas les textes. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour que les gens comprennent ce qu'on dit dans la salsa. Et bon, j'ai toujours voulu, mais j'écris très mal en français, je compose très peu en français. Alors, j'étais au studio, j'étais en train d'enregistrer en 1995, et j'ai fermé les yeux et je voyais Jacques Brel. J'ai chanté les autres titres de l'album, l'album a 10 titres. Et j'ai chanté les autres 9 titres, et j'ai fermé les yeux, je chante souvent avec les yeux fermés, et je voyais Jacques Brel dans ma tête. Et je lui dis à l'arrangeur, tu sais, je vois une image d'un homme que j'ai connu en France dans un documentaire de télévision. Je voudrais sincèrement faire un titre de lui. Mm-hmm. Et quel titre? Il dit, je ne sais pas. C'est un titre qui dit « pas ». La seule chose que je me rappelle, c'est que...
Vous aviez retenu le mot « pas
». Oui, j'ai retenu seulement le mot « pas » parce que je ne parlais pas bien français. Je ne parlais pas français. Il dit « pas ». Ça ne dit pas. Et on est parti à Cali, en Colombie, dans tous les disquaires. Et on disait aux disquaires, « Vous connaissez un titre d'un français qui dit « pas ».»« Pas ». Personne ne savait. Jusqu'à un moment donné, un monsieur il a dit, « Ah oui, ne me quittez pas » de Jacques Brel. Il dit, « Oui, c'est ça, ne me quittez pas » de Jacques Brel. » Et on l'a adapté, mais je ne savais pas sincèrement, Benoît, que Jacques Brel était si important pour vous. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé Jacques Brel, j'ai beaucoup aimé son œuvre, j'ai beaucoup aimé son histoire, beaucoup ses mélodies, sa poésie, mais je ne savais pas qu'il était si important. Je l'ai fait avec beaucoup de naïveté, beaucoup d'amour, parce que ma volonté, c'était que les gens comprennent.
Bien sûr.
Voilà.
Avec beaucoup de cœur et de sincérité, c'est aussi pour ça que ça a plu énormément.
Oui, j'y crois.
Oui, on est sûr. Oui.
J'y crois. Ouais. Et je dois les jouer tout le temps.
Ah, c'est obligé, ça.
Il me l'exige. Il me l'exige. Même en Colombie.
Ah bon?
Oui, même en Colombie. Même en Colombie, à Cuba, à Porto Rico, où je joue, ils veulent écouter, ne me quittez pas. Oui.
Vous allez revenir bientôt pour des concerts pour présenter sur scène à Mamé. Vous allez tourner en France, tourner
oui,
en Europe.
Nous sommes au printemps de l'année prochaine et l'été en tournée. Et en particulier, le 8 avril à la Salle Playel à Paris.
D'accord.
Et oui, on prépare une belle tournée pour l'année prochaine.
Nous serons là.
Merci beaucoup.
Merci infiniment, Yuri Buenaventura.
Merci à vous et à vos auditeurs de Jazz Radio à Lyon. Merci.
Avec plaisir.